Bonjour à toutes et à tous. C'est donc la dernière semaine avant de laisser la place à la grille d'été. Dès lundi prochain, vous entendrez chaque jour à 14h, si mes informations sont bonnes, les entretiens hors champ menés par Laure Adler, et puis vous réécouterez Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund à 14h30. Mais nous sommes encore ensemble pour 5 jours et notre chantier thématique, on l'a dit, c'est l'été. Aujourd'hui, l'été est territoire de fiction et temps privilégié de lecture.
Se mettre derrière un livre, c'est tendre un rideau entre le monde et soi. Déjà à l'époque, le monde des adultes, et puis bientôt le monde extérieur. Quand on parle des livres, on est obligé de parler de sensualité. Le plaisir de caresser un livre, de rentrer dedans, de s'y lever et de s'y réfugier. Parce que les livres sont la seule manière intelligente de voyager.
On pense à l'été du point de vue de l'hiver, on rêve à l'été. On s'agrandit, comme le cœur qui gonfle, ou les bras s'ouvrent, afflux de larmes, sternum relâché, abdomen d'abeille, vive les comparaisons, j'ai des ailes de libellule, en calque veinée et plumes de soie. Elle me fait penser à quelqu'un qui, sans le savoir, importerait dans une campagne moyenne, belle, mais à petite dimension, un paysage énorme comme ces parcs où l'on reconstitue avec quelques rochers au centre des villes une impression de montagne en accéléré. Faisons comme elle, agrandissons, prenons le large, vacances, abandonnons les détails, grues gigantesques, ballons, on lâche les sacs de sable et on se retrouve en haut. J'ai souri de bout en bout en recopiant tout à l'heure, mot à mot, cet extrait d'Un mage en été d'Olivier Cadio, paru chez POL. Jubilation, il est 14h passé de 2 minutes. Bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Et en toute fin d'émission cette semaine, on écoutera des auditeurs, des visiteurs, des passants qui pendant le week-end Imagine au Centre Pompidou à Paris, début juin, nous avaient rejoints sur la Grande Marelle Radio pour enregistrer des récits de moments importants pour eux. Aujourd'hui on écoute Karim, il évoque le ciel de Djerba en Tunisie, qu'il regarde avec son père alors qu'il a 6 ans et toutes les étoiles lui font prendre la mesure de l'infinité des possibles pour une vie. C'est donc le premier moment de ce chantier des Nouvelles Vagues consacré à l'été. Aujourd'hui, il est à la fois un territoire de fiction avec sa lumière, sa chaleur et ses nuits suspendues, mais il est aussi une saison privilégiée pour les lectures au long cours. Même quand l'été n'est pas synonyme de vacances, il semble qu'il insiste pour demeurer ce temps épais de langage et d'histoire. Alors au-delà du top 5 des livres à emporter avec vous cet été qui fleurissent ici et là, on réfléchit cet après-midi à ce que l'été fait à l'écriture, la lecture, et à ce que, dans le sens inverse, l'écriture et la lecture font à l'été. Nous savons encore moins que d'habitude ce qui va être dit aujourd'hui, mais je fus étonnée, à l'écoute des archives en préparant l'émission, de voir à quel point la mort planait sur cette saison-là. Un été, Vincent Almendros, c'est le titre d'un de vos livres, paru aux éditions POL, Deux couples, un voilier et minuit, et la dissolution de plusieurs nœuds. On n'est pas tous à la même maison d'édition. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Et Ma chère Lise, qui était aussi parue aux éditions de minuit, il me semble, c'est votre précédent livre, prenait aussi place l'été, aux alentours de l'été, pendant les vacances.
Oui, je crois qu'il y avait au moins 2 ou 3 étés dans le livre.
Ouais. Qui était là. Bonjour à vous et bienvenue. Et puis pour parler lecture et écriture, on s'est dit qu'il y avait un passage obligé par la librairie et par une maison d'édition. Perrine Albin, vous travaillez à la librairie Le Genre Urbain à Paris, qui a au moins 2 identités, c'est pas pour nous déplaire, à la fois l'idée d'une librairie de quartier, d'animation de quartier et locale, et puis aussi un fonds très important sur l'urbanisme. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Et une famille d'éditeurs toutes jeunes et toutes neuves, c'est la famille Marchiali, ici représentée par Clémence et Christophe. Vous publiez des histoires vraies au long cours ou du creative non-fiction, pour le terme anglais. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Peut-être on commence par ce titre-là, Vincent Almendros, Un été, il arrive quand dans l'écriture ou la publication de votre livre ?
Il arrive assez tardivement et ça a été d'ailleurs un long sujet de discussion avec mon éditrice. On a mis beaucoup de temps à le trouver pour finalement arriver à une forme aussi simple que ça, hein, déterminant un nom. Mais ce qui finalement est assez représentatif de la manière aussi que j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de pages écrites, mais au final, le livre est assez court, ce qui fait une centaine de pages, suite justement à un retravail très, très minutieux de l'écriture.
Il y avait quoi comme terme de cette discussion avec votre éditrice sur ce titre-là ? Qu'est-ce qui vous posait question ?
Sur ce titre, on s'est mis d'accord, donc ça veut dire que ça lui allait. C'était plutôt sur les titres précédents que c'était problématique. Non, mais je crois que justement, si on s'est mis d'accord sur ce titre-là, c'est parce qu'il était, je pense, à la fois simple et sobre et que voilà, on faisait pas le malin, quoi. Enfin, c'était.
Un été, c'est une saison et pas cet été ou l'été. Ça, c'est parce que c'était pris ou c'est parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de un été parmi d'autres dans la manière dont vous souhaitiez titrer votre livre?
C'était un été peut-être pour annoncer peut-être le huis clos, en fait, montrer que c'était un temps assez borné, en fait, d'un seul été. D'ailleurs, c'est même quelques jours, en vérité. Parce que, enfin, j'imagine parler de la question du temps, pas seulement du temps météorologique, mais aussi du temps qui passe. Et donc voilà, je voulais un livre qui soit très, très dans un temps très restreint, et donc un été annoncer ça aussi.
Et c'est aussi l'idée de, vous disiez tout à l'heure, de pas faire le malin, mais il y a comme un euphémisme de juste le titrer un été, alors que c'est un tournant qui est fondamental pour ce quoi trop d'humain. Et c'est comme si vous disiez juste un été, alors qu'en fait c'est presque une vie, quoi.
Oui, puis
c'est
en
même
fait,
d'ailleurs.
Oui, puis surtout. Ce sont aussi les étés précédents et les étés suivants qui sont intéressants, mais peut-être pour le lecteur, qui permet le lecteur devra peut-être imaginer la suite aussi, mais en tout cas quand on écrit, moi j'ai écrit en tout cas une partie de cette vie-là, quelques jours de cette vie de ces gens-là, sans forcément d'ailleurs faire de retour en arrière ou d'expliquer trop, parce que ça c'est sur un plan esthétique, ça me plaît pas tellement quand on explicite les choses, je préfère décrire et parler des sensations, ce genre de choses. Voilà.
Perrine Albin, si je vous dis l'été comme ça, avant même qu'on entre dans les conseils de lecture, le rapport à la lecture et ce temps-là, ça vous évoque quoi ?
Bien, toute une symbolique, celle de l'abondance, de la chaleur, de la sensualité et du désir aussi qui est très présent, je pense, dans le livre aussi « Un été » de Vincent Almendros. Voilà, ça c'est pour tout le côté positif de l'été. Et puis après, il y a aussi son versant négatif, je pense, qui est peut-être lié à l'excès, la démesure, la paresse aussi, l'ennui peut-être. Voilà.
Et vous, Clémence et Christophe ?
C'est vrai que spontanément, l'été véhicule tout son lot d'images extrêmement positives, à commencer par les vacances, la chaleur, etc. Mais en fait, notamment dans la littérature, je pense qu'on va en parler, c'est souvent en fait un élément ou un personnage qui est presque, alors pas un ennemi contre lequel on va se battre, mais qui est un élément néfaste, lourd, pesant en fait sur l'ambiance.
C'était... Oui, je vous en prie.
Oui, peut-être aussi parce que l'été, le cadre romanesque de l'été est propice au drame dans le sens où il y a un contraste très fort entre justement tout le côté positif de l'été, la chaleur, le soleil, et puis le drame qui peut se produire. Je crois que ce contraste-là, il est
fonctionne très
peut-être
bien.
Très, très romanesque. Oui.
Vous avez eu la sensation d'avoir affaire avec un autre personnage que cette saison, l'été, Vincent Almendros ?
En quelque sorte, oui, un peu. Enfin, je ne l'ai pas formulé comme ça au moment de l'écriture, mais c'est vrai que... En plus, moi je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse c'est aussi beaucoup les sensations dans l'écriture, donc forcément c'est vrai que ce qui m'intéressait c'est vraiment d'essayer de décrire justement tout ce que vous dites là, sur la chaleur, le sel, toutes ces choses là en plus, surtout que le livre se passe en pleine mer, donc c'était aussi un autre personnage avec lequel j'avais affaire et qui n'était pas des moindres.
Et pour les premières associations, Clément, ça vous évoque quoi l'été ?
L'été, c'est vrai qu'on retrouve ce côté de temps long, voire d'ennui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été ? Et du coup, on a envie d'aller vers le plaisir parce qu'on va rompre avec notre quotidien. Et ça va être du plaisir par la lecture, par des activités qui vont changer de l'année, en fait, d'extérieur, la baignade, la mer, la montagne, voilà.
Donc beaucoup de contrastes, on suit ce premier tour de table.
Je comprends ici ce qu'on appelle gloire. Le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Tout à l'heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire rentrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant.
La mer recouvrait une bonne partie de mon corps. D'instinct, je me mis à nager vers Jeanne. Le clair de lune brasillait sur les vagues. Je m'habituais peu à peu à l'obscurité. « Viens voir, » dit-elle, lorsque je l'eus presque rejointe, et brutalement elle disparut. Je restai un instant à la surface, seul, avant de m'enfoncer à mon tour. L'eau était douce, presque tiède. Je conservais les yeux fermés, de peur de ne rien voir. Lorsque je les rouvris, un univers flou et enténébré m'apparut. J'avançais en apnée, en gonflant les joues et en plissant les yeux. De l'air s'échappait en bulles de mon nez. J'avais conscience de m'éloigner de la coque de notre bateau en nageant ainsi au hasard, très lentement, dans cette nuit aquatique, décomposant chacun de mes mouvements avec appréhension. Mais Jeanne apparaissait de temps en temps dans mon champ de vision. Et cette forme, quoique nébuleuse et imprécise, était rassurante. En revanche, j'entendais que quelque chose crépitait sous l'eau. Une sorte de grésillement sec. Et bientôt, des étincelles commencèrent à s'agiter devant moi. Je continuais d'avancer en regardant ces lumières qui me guidaient comme de minuscules vers luisants sous-marins que j'essayais en vain d'attraper et qui me filaient entre les doigts en se démultipliant.
C'est un extrait de votre livre « Un été, Vincent Almendros ». Une baignade de nuit, lue par Romain de Becdelièvre, sont deux des personnages qui sont sur le pont du bateau. La femme plonge et l'homme le rejoint. Et c'est un mélange, on disait tout à l'heure dans le premier tour de table que c'était une saison de contraste l'été. Là, c'est vraiment un mélange de nuit profonde et de surgissement de la lumière. Quel est le statut de cette scène dans ce texte, Un été ?
Je ne veux pas esquiver votre question, mais c'est vrai que comme c'est un roman à chute, je ne peux pas trop en dire non plus, je ne peux pas trop raconter l'histoire malheureusement, au risque de trop en dévoiler. C'est une scène qui est finalement assez importante, mais ce que je crois, c'est que quand le lecteur lit le livre, il n'est pas impossible qu'il ne se rende pas forcément compte que c'est important, et c'est peut-être a posteriori, après coup, après la fin du livre, après la dernière phrase, que tout sera reconstitué, en fait, pour lui.
Est-ce que c'est un livre que vous avez écrit l'été ?
Oui, en partie. Oui, j'avais bénéficié même d'une bourse de la mission Stendhal. J'avais été écrire pendant un mois à Venise, donc avec une ville où il y avait de l'eau.
Et qu'est-ce que ça change, justement, la possible corrélation entre ce qui nous entoure et ce qu'on est en train d'écrire ?
C'est vrai que j'avais choisi une ville d'eau volontairement, en fait, en me disant que ça allait peut-être m'inspirer. Mais en vérité, j'étais enfermé dans un appartement toute la journée quasiment, donc je n'ai pas vraiment bénéficié ni de Venise, ni de... Ça peut influencer. En revanche, moi je crois que c'est peut-être plus intéressant quand on écrit d'essayer de convoquer des lieux qui ne sont justement pas sous les yeux et que... Enfin, en tout cas, moi c'est une des choses qui me plaît dans l'écriture, c'est d'essayer de faire renaître ce qui a disparu.
On entendait juste avant un extrait des Noces de Tipaza d'Albert Camus, où la mort plane, le soleil, ce qui se joue c'est la vie. C'était votre souhait, Perrine Albin, d'en entendre un bout, pourquoi ?
Oui, alors parce que je pense que dans l'œuvre d'Albert Camus, le soleil est très important, puisque ça lui évoquait immanquablement son Algérie natale. Et donc c'est vrai que dans Noces, il évoque un certain nombre de villes d'Algérie et c'est l'occasion pour lui de réfléchir à l'union de l'homme et de la nature et aussi évidemment l'occasion de prendre conscience de sa condition de mortel. Et donc il y a cette alternance entre les deux, cette réflexion. Et oui, dans l'œuvre d'Albert Camus, il y a une sorte de célébration du soleil qui est très belle, qu'il partageait d'ailleurs avec René Char. Hein, leur amitié était un peu sous le signe du soleil. D'ailleurs, il y a un recueil de poèmes aussi dont j'aimerais parler, qui s'appelle « La postérité du soleil », qui est publié chez Gallimard, et dans lequel il y a des photographies de l'île sur la Sorgue, le village...
Des photographies littéraires ou des photographies réelles ?
Alors, ce sont des photographies d'Henriette Grindat, qui avait été invitée par René Char dans le village de l'île sur la Sorgue. Elle a photographié, en fait, le village pendant l'été de 1950, et puis un peu après, pendant l'hiver aussi. Et Albert Camus a été extrêmement touché par ces photographies, et donc il a écrit un texte qui se trouve en regard de chaque photographie, de courts poèmes. Et voilà, donc la postérité du soleil, c'est vraiment tout un programme rien que dans le titre. Et ça, je pense que ça rentre tout à fait dans le cadre de l'été. Il faut lire ce recueil qui est très beau.
On espère qu'il y aura du soleil cet été, sinon toute cette émission tombe complètement à l'eau. J'ai dit tout à l'heure que c'était une saison qui insistait pour être une saison de lecture. Est-ce que vous en êtes aussi convaincue que moi ? Christophe ?
Oui, tout à fait. Je pense que il y a une distinction à faire entre les livres qui parlent de l'été, qui sont pas forcément des bons livres à lire l'été. C'est bien de lire des livres qui se passent en Alaska ou dans le Grand Nord ou voilà en été pour se rafraîchir. En fait, souvent on considère que l'été va être le moment de lire des livres légers à la plage, très grand public, du polar, etc. Alors pour moi, déjà, la plage, c'est le pire endroit du monde pour lire parce qu'on est très mal installé. On n'est ni assis, ni allongé, c'est l'horreur.
Enfin, ça, c'est vraiment... C'est, si vous voulez, on vous file quelques conseils parce qu'il suffit de creuser un peu dans le sable,
faire un dossier,
mettre sa serviette de plage. Enfin, c'est pas complètement impossible.
Bon, je veux bien m'y essayer. Mais en fait, pour moi, l'été serait plutôt le moment, justement, d'une lecture très immersive, totalement déconnectée du temps, disons s'attaquer à des grandes œuvres qu'on n'a pas eu le temps de lire au cours de l'année, qu'on a mis de côté, qu'on a laissé s'empiler sur la table de nuit, et de se plonger dans quelque chose qui vraiment va rompre avec le rythme de l'année. Moi, un de mes souvenirs de lecture d'été, pour prendre un exemple concret, ça a été L'Or du contrevent d'Alain Damasio, que j'ai lu au fin fond du Berry, coupé du monde, il y a un ou deux ans, je sais plus.
Sur des plages de lecture longues ?
Sur des plages de lecture entrecoupées. Parce que je trouve que, et c'est une des choses intéressantes aussi dans l'été, dans le rapport qu'on a à la lecture, c'est qu'on a une lecture qui est peut-être plus libérée, désacralisée, plus désinvolte. On peut se permettre d'arrêter, de reprendre, parce que justement on a ce temps qui est un peu aboli. Et là, un roman donc de science-fiction comme La Horde du Contrevent, pour moi c'est l'incarnation parfaite du roman qui est fait pour être lu en été, parce que on est dans un monde parallèle, un monde imaginaire recréé de toutes pièces. Donc l'été va nous permettre, va nous laisser cette liberté mentale d'accepter ce monde. Il pousse en plus l'imagination jusqu'à recréer une langue, jusqu'à changer la pagination des pages, etc. Et donc ça, pour moi, ce livre, je suis absolument incapable de le lire au cours de l'année.
Parce que vous êtes moins souple dans votre position de lecteur, vous vous semblez...
Complètement. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans des enregistrements, Alain Damasio raconte que lui-même, pour écrire ce livre, s'était isolé. Et donc, je sais pas, vous parliez tout à l'heure, pour un été, donc de votre isolement et également dans un appartement pour l'écriture. Et donc, il y a quelque chose comme ça où l'auteur et le lecteur vont tous les deux se retrouver dans une position d'isolement pour pouvoir s'immerger complètement dans ce monde parallèle, ce monde imaginaire.
Vous avez des souvenirs très forts de lecture, Vincent Lemandros, l'été ?
Oui. En tout cas, c'est une période aussi où je lis, mais c'est aussi une période où j'écris, donc c'est toujours un peu particulier. Mais quand vous me posez la question, immédiatement me vient la lecture de Au piano de Jean Echenoz dans ma piscine, en fait. Enfin, dans une piscine, ce qui n'est pas la mienne. Et je dis ça parce qu'en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'été, souvent, le livre aussi est marqué physiquement par justement le lieu où on le transporte, et je sais que pour moi, Au piano de Jean Echenoz dans ma bibliothèque,
il est un peu
tordu, un peu voilà.
Et dans le souvenir de lecture de ce texte-là, vous avez ce mélange autant le souvenir du moment, de cette piscine, de l'environnement, que du texte lui-même.
Oui, mais je crois que les bons livres, généralement, j'ai l'impression qu'on se souvient où on les a lus. Je crois que c'est grâce à la qualité du livre, pas forcément à la qualité du lieu.
Perrine Albin, des grands souvenirs de lecture l'été ?
Oui, moi je suis un peu d'accord avec Christophe, c'est-à-dire que je pense que l'été c'est aussi le moment où on est loin des regards de la société, donc on en profite pour combler les lacunes qu'on peut avoir dans la littérature classique. Moi je pense que c'est une bonne chose, d'ailleurs sur les tables des libraires.
C'est quoi le lien entre être loin des regards de la société sur soi et un retour au classique?
Vous voyez, par exemple, moi là cet été j'ai prévu de revenir au classique russe, et c'est vrai que j'ai un peu honte d'avouer que je n'ai pas lu Crime et Châtiment, vous voyez, donc je vais pouvoir le faire cet été, ça va être bien, j'arriverai à la rentrée avec un peu plus de savoir. Mais donc oui, je pense qu'on peut revenir à des classiques, et c'est vrai que sur les tables des libraires, vous verrez l'été, comme la production éditoriale est un peu moins fournie l'été, hein, c'est un peu une période creuse, on va ressortir des classiques ou des livres qui sont sortis il y a plus longtemps.
Et donc pour se souvenir,
Voilà. Et donc moi, j'ai après, dans mon métier, je dois lire aussi. Je prépare déjà en fait la rentrée de septembre. Donc l'été, je lis aussi des livres qui ne sont pas encore parus, qui paraîtront en septembre. Et je me souviens l'année dernière que j'ai lu avec grand plaisir le livre de Laurent Mauvignier, Autour du monde. Vous voyez, je l'ai lu à la plage, comme quoi c'est possible. Et d'ailleurs, c'est un livre qui fait voyager, qui se passe... alors, c'est un livre assez fragmentaire, il y a plusieurs personnages, et tous les personnages vont être... en fait, ça parle de la catastrophe du tsunami de 2010, je crois que c'était en 2010, et donc chacun des personnages va vivre cette catastrophe naturelle de façon différente, aux quatre coins du monde. Et cette catastrophe naturelle va avoir des répercussions sur leur intimité. Voilà. Et donc ça, c'est un livre aussi que je conseille, que j'ai lu l'été, et qui a été un moment fort, effectivement, de mes lectures.
Et de votre côté, Clémence, est-ce que vous vous souvenez d'un livre lu en été qui vous aurait marqué?
Oui, alors par exemple, il y a Indian Creek de Pete Fromm. Et en fait, ce que je cherchais dans ce livre-là, c'était l'exotisme, c'est-à-dire même si c'est l'été en France, il fait chaud, je vais à la plage, j'avais envie d'un récit justement d'aventure qui se passe en Alaska, où on est dans une nature immersive. Non, d'ailleurs, il se passe pas en Alaska, mais ça se passe dans des montagnes, sous la neige. Et du coup, j'avais envie de ça, où la nature joue un rôle à part entière et nous englobe et nous emmène dans un monde et un univers totalement différent. Et donc, à chaque fois, c'est des lectures que je choisis avec soin, que je prépare, que je mets un peu de côté, que j'attends avec impatience. Et je sais que c'est une façon de s'évader et de partir...
J'ai du mal à pas te poser la question, Romain, en fait, puisque t'es resté. Qu'est-ce que toi, tu te souviens avoir lu un livre très important pour toi l'été ?
Ouais, il y a beaucoup de classiques, ouais, en fait. C'est ça, et des formes longues. Après, il y a la tentative de classique qui échoue.
C'est-à-dire ?
Je me souviens d'avoir essayé de commencer Ulysse de Joyce en été, et échec total. Ouais.
Vous avez souvenir de tentatives de classique qui échouent ?
C'est une bonne chose d'arrêter, de ne pas finir un livre en été. Comme je disais tout à l'heure, on a peut-être un rapport plus désinvolte, plus désacralisé par rapport au livre et au texte. C'est vrai que par rapport à l'année où, en plus, quand on est éditeur, il y a des livres qu'on doit lire un peu par obligation, hein, pour faire de la veille, etc., chercher des textes. Et là, avoir cette liberté, finalement, de ne pas finir les livres, je pense que c'est un droit fondamental du lecteur et qu'on se réapproprie en été. On le rouvrira un été suivant ou dans 10 ans.
Lecteur, auteur, vous avez plus de liberté à lire l'été, Vincent Lemandros ? Vous sentez plus à même de lâcher un livre en cours ?
De toute façon, c'est vrai que je pense que c'est important de pouvoir se dire qu'on peut lâcher un livre. C'est pas forcément sa faute à soi, c'est aussi la faute du livre, comme le dit Pénac. En revanche, c'est vrai que c'est bien aussi de le reprendre plus tard, même en hiver, parce qu'il y a un petit goût d'été qui revient éventuellement. Je trouve quand même que l'été, lire, c'est pas forcément si évident que ça non plus, parce que, déjà sur un plan pratique, si on a la chance de partir en voyage, il faut prendre une valise et choisir à l'avance les livres qu'on va lire, ce qui est pas forcément toujours quelque chose de simple. Et est-ce qu'on choisit justement un gros livre qui va nous durer pendant tout l'été, par exemple ? Je me souviens que je crois que c'était l'été dernier, j'avais pris La Recherche du Temps Perdu, vous voyez.
Et c'était un échec comme Romain ou c'était un...
Non, mais en revanche, je savais très bien au début de l'été que je n'aurais pas le temps de tout lire, de toute façon. Et comme dit Jean-Philippe Toussaint très bien, La Recherche du Temps Perdu fait partie de ces livres qu'on a plus relus que lus. Mais c'est un livre qui va accompagner tout l'été, c'est aussi quelque chose d'agréable, mais en tout cas, programmer à l'avance, c'est pas forcément une chose facile.
Et dans la difficulté peut-être aussi de lire en été quand on a la chance de partir en vacances, c'est s'isoler si on a besoin de s'isoler pour lire, c'est pas toujours simple de s'isoler, si ?
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez asocial dans la lecture, et parfois c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir s'isoler d'un groupe.
Et puis l'été, il y a du monde. Ce qui n'est pas forcément effectivement le contexte propice à la lecture. Il y a, ça me fait penser à un poème de Boris Vian, Il y a du soleil dans la rue, où il dit il y a du soleil dans la rue, j'aime le soleil mais j'aime pas la rue. Et il attend le soir pour pouvoir sortir, non pas parce qu'il aime pas le soleil, mais parce qu'il y a trop de gens dans la rue.
Chaque été, j'entreprends la traversée de l'été avec une confiance assez étonnante et que je me retrouve toujours à la rentrée complètement transformée, mais sans vraiment avoir... m'en être rendu compte. Et j'étais touchée par ce que vous avez dit au début, que peut-être c'est vrai que cet été-ci, ce sera l'été de la mort de Cartier-Bresson. C'est-à-dire qu'on garde comme ça des souvenirs, des plaques. Moi, j'étais sur la place du village et puis on m'a amené le journal. Et le journal espagnol des Baléares, et ça faisait la première page, parce que Cartier, il était à tout le monde, quoi. Et c'est vrai qu'on est souvent dans une situation, on se dit, ah tiens, une photo de Cartier, comme si on l'avait déjà vue. Il nous a transformé l'œil. Moi, je passe les vacances toujours dans des lieux qui, pour moi, sont neutres, c'est-à-dire des îles, où il faut qu'il y ait des mythes qui s'y promènent. Il faut que je puisse être surprise. Alors au début, je me laisse... au début, on est dans l'épuisement des coups qu'on a pris pendant l'année. Et alors je les laisse arriver à la surface, parce que pendant l'année, c'est trop violent, j'ai pas le temps. Alors c'est comme si j'avais enregistré des bandes, et là, je les regarde tranquillement. Alors je fais ça avec des lectures, je choisis des lectures, les choses qu'on a envie de lire, et on se dit qu'on n'a pas le temps. Alors cet été, par exemple, j'ai relu Edmund White, qui est formidable. J'ai lu le livre des rois de Ferdowski, enfin des choses qui tout d'un coup me libèrent de ce que je dois faire. Alors j'ai plus rien à faire sauf aller à la rencontre de qui est devenue Federica pendant cette année.
Federica Matta, c'est l'artiste qui est au micro de Colette Fellous, dans Carnet Nomade, diffusé en 2004 sur France Culture. Elle dit « Je vais à la rencontre de ce que je suis devenue et je laisse revenir en surface les coups pris pendant l'année que je n'avais pas eu le temps de peut-être d'identifier. » Et elle le fait avec des lectures. Quand on vient vous demander ce qu'on peut lire pendant l'été, comment est-ce qu'on le formule, Perrine Albin? Quand on entre en librairie, on dit « Voilà, je pars pendant un mois ou trois semaines ou une semaine en vacances et je souhaite choisir avec soin ce que je vais lire. »
Vous voulez savoir ce que les clients me demandent précisément? Après, oui, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, effectivement, vont partir loin et qui veulent découvrir la littérature du pays où ils se rendent. Donc ça, du coup, je sélectionne les livres en fonction de leurs demandes. Après, il y a des gens qui préfèrent les récits de voyage. Il y a beaucoup de demandes aussi en récits de voyage. Pour l'été, et puis ensuite des gens effectivement qui vont chercher plus de livres de détente. Ça, il y a énormément de demandes là-dessus.
Vous faites quoi avec « Je voudrais lire un livre léger ou un livre de détente »
Non, mais j'ai toujours dans ma besace de quoi les conseiller.
Et vous avez quoi dans votre besace ?
Par exemple, j'aime bien conseiller « Cette année de bonheur » de Edgar Keret, qui est un auteur israélien, et qui raconte dans ce livre...
Ce sont des nouvelles, non ?
Ce sont des nouvelles, oui. Ce sont des nouvelles, et en fait, mais qui sont toutes plus ou moins reliées les unes aux autres, puisqu'il raconte les événements qui se sont produits dans sa vie pendant 7 ans. Et avec toujours énormément d'humour, moi c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce livre, il a une plume très acérée. Et bon, évidemment il y a un arrière-plan derrière un peu politique, puisqu'il vit quand même dans un pays plus ou moins en guerre. Mais j'aime bien ce contraste, c'est intéressant de voir comment il vit, mais après il raconte sa vie d'écrivain, sa vie de père, voilà. C'est très drôle. Donc celui-là, j'aime bien le conseiller.
Et quoi d'autre dans la besace pour les livres de détente?
Quoi d'autre dans la besace? J'aime bien conseiller Julien Blangras aussi, qui est un journaliste et qui a écrit des livres. C'est un globe-trotteur, c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Et il a écrit donc un livre qui s'appelle « Touriste », que j'aime bien parce que c'est un livre qui se situe à la frontière entre le roman et le récit de voyage. Et donc, il raconte, chaque chapitre est consacré à un pays qu'il a visité. Et il raconte toujours des petites anecdotes très, très décalées, j'aime bien. Et donc, ça donne une image aussi du tourisme qui est très différente de celle qu'on peut avoir d'habitude. Donc celui-là, je le conseille aussi.
Entre fiction et non-fiction, ça fait quand même penser au travail que vous menez avec la Maison Martiali. Cette idée d'écrire le réel, mais d'écrire tout court. Pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré sur ce genre-là ?
Une vaste question, pourquoi on s'est concentré sur ce genre-là?
Parce que c'est un choix quand même assez clair de la
maison.
Oui,
c'est un choix très clair. La première réponse serait parce que c'est tout simplement les livres qu'on avait envie de lire nous, en tant que lecteurs. Parce que on a envie qu'on nous parle de notre monde, du monde dans lequel on vit réellement, et en même temps qu'on nous prenne la main. Et qui est une vraie force narrative qu'on trouve traditionnellement dans la fiction, ou en tout cas dans la littérature. Et du coup, le positionnement de la non-fiction ou de la littérature du réel, c'est de dire on peut parler du réel tout en faisant de la littérature, et ça se fait notamment dans le récit de voyage, dans le récit d'aventure que du coup nous on affectionne tout particulièrement. On vient de sortir Une femme chez les chasseurs de têtes de Titaïna, alias Elisabeth Sauvy, qui elle était une femme aventurière, pionnière dans les années 30, française, qui partait au bout du monde pour ramener des récits incroyables, notamment des récits qui se passent sous les tropiques, où on retrouve ce climat, l'été, l'humidité, la chaleur suffocante. Et voilà, du coup, on est assez sensible effectivement à ces récits d'aventure qui peuvent être des bons récits d'été.
Juste Vincent Almendros, puisqu'il est question de temps et de ce temps aussi qui pèse au tout début du roman, et ça revient comme les vagues dans un été. L'idée de la chaleur qui fait presque prendre une double couleur tout le temps ou une triple couleur tout le temps aux mots que vous utilisez. C'est comme si le langage avait une surface comme la mer, et puis comme s'il y avait tout le temps un souterrain qui était en lien avec le désir, avec la sexualité, avec la navigation. Vous avez laissé faire les choses ou vous êtes amusé de cela?
Peut-être ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est vraiment à force de travailler qu'il y a des choses qui viennent. Alors il y a des choses qui viennent qu'on ne maîtrise pas forcément, et en revanche il y a des choses qu'on... Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est vraiment justement, ça paraît une banalité, mais de choisir le mot le plus juste et d'être au plus près de ça avec une, je sais pas comment dire, une sorte de précision maniaque du langage. Donc oui, à force de retravailler un texte, de toute façon, je pense que c'est comme si les mots étaient tous à fleur de peau, quoi. En tout cas pour moi, c'est-à-dire que je vais couper beaucoup, beaucoup de phrases, de mots, donc ceux qui vont rester, ils vont me paraître essentiels, à moi en tout cas. Parfois pour arriver à quelque chose de très simple aussi, parce que c'est une de mes recherches aussi, d'essayer de faire un livre qui peut se lire très simplement, très facilement, presque d'une traite. Mais c'est vrai qu'après, comme je coupe beaucoup, il reste beaucoup de sous-entendus. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est très juste, mais j'ai l'impression que dans les mots qui restent, s'entendent peut-être aussi tous ceux que j'ai coupés.
Oui, c'est presque comme un texte faux ami, c'est-à-dire qu'on peut... Moi, je l'ai lu trois fois et il continue de surprendre, en tout cas, il continue de faire croire à quelque chose jusqu'à la dernière page qu'on oublie si on le reprend.
Oui, c'est vrai. Moi, un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait sur ce livre-là, c'était de dire qu'il ne faisait pas 100 pages, mais 200, parce qu'il fallait le relire. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un livre qui a... Si on le relit, on peut découvrir pas mal de choses. Non pas qu'il y ait des choses cachées qu'il faudrait comprendre, c'est pas du tout nécessaire, en fait, de relire le livre, mais je pense que... Oui, qu'il y a des choses qui sont... par exemple, vous voyez, j'avais écrit une scène sexuelle que j'ai finalement décidé de couper en partie. Dans le chapitre suivant, les premiers mots qui apparaissent ont forcément une connotation très forte, en fait. Voilà, pour le coup, qui était volontaire, mais voilà.
Et qui, par exemple, en lisant, en tout cas en tant que lectrice, moi j'ai souri. Enfin, je me suis dit, c'est quand même assez drôle.
Oui, bon, là, c'était presque effectivement de l'ordre de la plaisanterie, enfin du clin d'œil, en tout cas pour le lecteur, mais... C'était aussi parce qu'en fait, je trouvais que c'était nécessaire de couper la scène sexuelle, mais j'avais une sorte de petite frustration...
De ne pas la faire clairement.
De ne pas la faire clairement, donc je voulais quand même qu'il y ait quelque chose qui reste de ça.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
crois que c'est du côté de la famille Marcelli qu'on voulait entendre Sébastien Tellier.
Oui, tout à fait.
Sous les rayons.
C'est
un joli lapsus.
Les rayons du soleil.
À choisir. L'album
Aventura en plus.
C'est la raison ou les rayons du soleil.
Qu'il a enregistré au Brésil et c'est une vraie invitation à l'aventure et au voyage, cet album. Donc ça me semblait tout à fait propice et adapté, d'autant plus que, comme on disait, vous parliez tout à l'heure des lecteurs qui viennent dans la librairie pour demander un livre qui va correspondre au pays où ils vont aller, d'un auteur pour les accompagner. Je trouve que effectivement, la littérature, c'est un bon moyen de s'immerger dans une culture, d'accompagner le voyage, de l'intensifier peut-être. Et ça me fait penser à une petite anecdote. On faisait une rencontre autour de Tokyo Vice avec Jack Adelstein à Lyon, à la librairie Le Bal des Ardents, une très bonne librairie. Et quelqu'un est venu nous voir à la fin en disant « Écoutez, moi j'ai lu votre livre là parce que je pars en voyage à Tokyo dans un mois, donc je voulais préparer mon voyage. »
Vous l'avez rassuré, il n'y a pas des yakuza partout.
Il n'y a pas des yakuza partout, en tout cas lui il ne les verra pas. Mais... Et donc en fait, il l'a lu pour préparer son voyage et il nous a dit « Mais je me rendais pas compte que ça allait être un livre de littérature en fait. Et c'est la première fois que je lis un livre de littérature. » Et donc, enfin nous, forcément, ça nous a extrêmement fait plaisir et à l'auteur également. Et je pense que le voyage est un bon moyen d'entrer dans la littérature.
Et alors, on faisait entendre une archive au tout début qui disait que la lecture était la seule façon intelligente de voyager. On a coupé la fin de l'archive qui disait, contrairement à ces bêtas qui continuent de faire le tour du monde, alors qu'on peut tout simplement ouvrir un livre, c'est évidemment une façon d'opposer les choses qui peut être parfaitement inintéressante. Mais pour autant, vous avez l'impression, vous, qu'on peut se déplacer beaucoup, voyager beaucoup en ouvrant un livre?
Oui, je pense que, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Marcelli, c'est, quand on parlait tout à l'heure de littérature du réel, c'est amener des univers lointains au lecteur. Après, je pense pas que ça doit se substituer à la découverte du monde et de l'autre.
On a commencé par évoquer l'été comme une thématique de fiction. C'est aussi des choix avec lesquels vous étiez venu, Perrine Albin. Alors, je ne sais pas si on continue. On a parlé de Camus, ça y est, c'était en haut de la pile. Je crois qu'on a aussi parlé du recueil de poèmes Camus, en bas de la pile. Entre les deux, il y a quoi?
Entre les deux, il y a évidemment... Jean Giono, puisque c'est vrai que quand on pense à l'été, il n'y a pas besoin de voyager loin pour aller dans le pays du soleil, c'est la Provence. Et donc il y a plein de passages dans Jean Giono qui sont extraordinaires, des descriptions très belles de la Provence en été. Alors il y a Regain, évidemment, qui est un récit du retour à la Terre avec plusieurs personnages. Et il y a notamment la description d'un personnage l'été qui est décrit à la fois comme un arbre et puis comme un gros poivron. C'est assez drôle le rapport à son visage rougeau. Et donc dans Giono, c'est très visible. Il y a aussi le début du Sar sur le toit aussi qui se passe l'été. Le personnage est accablé de soleil, Angelo. Et il est prêt à tout pour manger des melons et des tomates qui sont gorgés d'eau, mais en même temps extrêmement chauds, comme brûlés par le soleil, et qui d'ailleurs contiennent les germes de la maladie, puisqu'il va y avoir une épidémie de choléra. Donc voilà, la Provence de Giono, celle de Pagnol aussi, mais qui est un peu plus peut-être considérée comme régionaliste, mais enfin qui rappelle aussi les vacances dans le château de ma mère. Voilà. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans le livre, je pense, de Vincent l'été, c'est tout ce qui a tout ce qui est en rapport avec le désir et la sensualité. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment développé dans les romans qui parlent de l'été, ne serait-ce que dans le roman de François Sagan, Bonjour Tristesse. D'ailleurs, vous avez reçu le prix François Sagan pour un été, Vincent. Et dans Bonjour Tristesse, ça se passe donc effectivement l'été, dans une villa au bord de la Méditerranée. Et le personnage de Cécile, qui est une jeune femme de 17 ans, passe ses vacances là avec son père et elle va goûter à tous les plaisirs que la plage et la pinède avoisinante peuvent lui procurer, les cafés aussi, voilà. Et malheureusement, elle va tomber dans l'excès, puisque c'est une femme qui, de la même façon que l'été, a une personnalité brûlante et un peu excessive, et donc malheureusement, elle refuse toute contrainte, et donc ça va l'amener à prendre des décisions malheureuses.
Moi, j'ai un souvenir de Villa Amalia, de Quignard, qui se passe aussi l'été. Ce sont deux femmes qui sont... c'est un souvenir assez flou, mais où le désir est assez présent, non? Quelqu'un l'a lu autour de la table?
Oui.
Vincent Lemandros,
oui, à mon secours. Oui, mais c'est vrai que J'ai cette lecture plutôt des impressions, je ne saurais pas forcément raconter.
Pareil, ouais, moi aussi, mais beaucoup de lumière en tout cas, et l'idée d'un désir, s'il n'est pas consommé ou transformé en sexualité, en tout cas, il plane et il est là. Je vous voyais hocher la tête par rapport à l'évidence du surgissement du désir dans les textes qui parlent de l'été, Clémence.
Pour revenir à Bonjour Tristesse et Françoise Sagan et au désir, à la chaleur accablante, il y a aussi les romans de Marguerite Duras et notamment Les Petits Chevaux de Zarquinia, où ces deux couples qui se rendent en Italie en vacances et en fait ils attendent la pluie, il fait très chaud, il y a des feux qui menacent sur les montagnes avoisinantes et ils sont pris dans cette chaleur et en fait ça va réveiller le temps long, l'ennui, la lassitude, et ils passent aussi leur temps à boire des Campari, va réveiller du désir et des questionnements sur leur couple. Et donc finalement l'été, on attend de cette saison la tranquillité et souvent la chaleur, la torpeur, l'ennui fait que ça se transforme en drame.
Ou en tension, hein, parce que pour continuer chez Duras, il y a yeux bleus, cheveux noirs, où l'été, la chaleur entoure cette espèce de huis clos de la chambre où un homme et une femme font l'amour, mais il y a aussi le marin de Gibraltar où il me semble que c'est pareil, elle est toujours à la recherche de cet homme-là qu'elle a croisé, avec qui elle a fait l'amour et dont elle désire ardemment des retrouvailles. Donc c'est l'été des tensions, en tout cas, chez Duras.
Il y a la pluie d'été aussi.
Mais où il est peu question d'été.
Il y a le rapprochement entre le frère et la sœur se produit l'été et puis à la
fin. Et près du feu d'ailleurs, parce qu'il y a un incendie à la fin.
La pluie d'été marque la séparation des personnages.
Tu as vu, dit-il soudain. Quoi ? Là, me montra-t-il. Je m'étais approchée en feignant de découvrir ce qu'il désignait, les cloques qui se promenaient à la surface de l'eau. Son visage s'était fermé, il se lécha nerveusement les lèvres, il semblait avoir du mal à respirer. Il inspirait profondément, mais quelque chose l'empêchait d'aller au bout. Il toussa. Il y a des méduses, dit-il. Où ça ? Là, dit-il. Les méduses continuaient de se propulser devant nous par petits bonds. Leurs ombrelles opalines, presque translucides, étaient soulevées par des vagues très douces. Elles s'éloignaient par à-coups, mais à peine disparaissaient-elles qu'elles réapparaissaient aussitôt, faisant en réalité place à d'autres, jumelles des précédentes, dans un éternel recommencement. La mer était infestée. Je regardais les chapeaux roses tendres qui semblaient très doux au toucher, mais s'apparentaient à des répugnantes confiseries gélatinées. En me tournant vers mon frère, je fus soudain frappée par l'usure de son visage. C'était comme si le sel et le vent avaient commencé de l'éroder. Il était entré dans un âge où la fatigue l'enlaidissait. Son œil torve ne se portait plus sur rien. Du bout de la langue, il semblait vouloir enlever la peau qui recouvrait ses lèvres et il grimaçait en même temps, avec le soleil du matin dans la figure. Je ne savais pas ce qu'il attendait pour me parler de la casquette.
C'est un autre extrait d'un été, Vincent Almendros. Juste avant, c'était un autre été, celui de Vivaldi, souhaité par vous, Perrine Albin, menaçant, un peu comme cette scène aussi où les méduses commencent à affleurer à la surface de l'eau. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez entendre ce titre-là ?
L'été, oui, là c'est le troisième mouvement, donc c'est l'orage. La musique de Vivaldi, en fait, elle est très descriptive. D'ailleurs, sur la partition, il avait écrit des sonnets qui correspondaient donc à la musique qu'il écrivait, et sur la partition, il note précisément les grêlons, un chien à bois. Enfin voilà, c'est très descriptif comme musique. Et donc le moment de l'orage, effectivement, moi je trouve que ça correspond bien à l'été, puisque c'est très théâtral. Ça, on le retrouve aussi dans certaines œuvres, je trouve, qui parlent de l'été. L'orage, c'est le moment où se défait quelque chose, où peut-être les espoirs, les attentes qui se sont construits durant l'été se défont.
Et où la tension est délivrée aussi.
Relâchée. Et donc, oui, je trouve que ça c'était approprié.
À l'inverse, cette scène-là, la tension n'est pas du tout relâchée, elle est presque à son comble entre les deux frères, Jean et Pierre, Vincent Almendros. Je n'ai pas de questions à vous poser. Vous pouvez vous poursuivre.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais il y a aussi, parce que moi il y a aussi une scène d'orage qui correspond effectivement à une libération à la fin du roman. En revanche, enfin c'était aussi du point de vue de l'écrivain cette fois, le désir pour moi écrivain d'en finir un peu avec cette chaleur. On est quand même imprégné, enfin c'est quand même très quand on écrit, on est vraiment dans le lieu où l'on est.
Et du coup, il commençait à faire chaud un peu.
Voilà, j'avais un peu chaud, j'avais besoin aussi pour moi de cette scène d'orage.
On continue avec des livres, ou peut-être on finit avec des livres avec lesquels vous êtes venu en tête, Christophe, des livres sur l'été ?
Ouais, alors plus sur l'été urbain et l'été crasseux aussi, parce que l'été à la ville, c'est pas forcément très agréable. Et du coup, moi j'avais pensé à La traversée de l'été de Truman Capote, qui se passe à New York pendant une pleine canicule, qui est une canicule horrible, qui écrase vraiment la ville, qui est comme une chape de plomb sur la ville. Et bon, là, la trame narrative, pour le coup, c'est encore, j'allais dire, encore une histoire de désir amoureux entre une petite fille de bourgeois et un fils de garagiste. Et cette canicule, qui est vraiment un personnage présent pendant tout ce roman de jeunesse de Capote, qui a été publié de façon posthume, accompagne et se développe en parallèle, en fait, de la tension amoureuse. Et les deux vont accélérer vers, là encore, un drame. Finalement, décidément, les histoires d'amour d'été, c'est pas la joie. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce texte, au-delà de l'histoire d'amour, c'était la description de cette canicule et de l'été urbain, de la chaleur, de l'été urbain, c'est l'odeur des poubelles, c'est l'odeur du goudron qui fond un peu, c'est l'odeur de la transpiration. Et ça, on le retrouve dans un polar que moi j'avais beaucoup aimé, Clegg Havelstone, de Nick Pizzolatto, qui est un des scénaristes de True Detective.
Série télévisée.
Voilà, la série télévisée True Detective. Et il a écrit un roman qui s'appelle Galveston, qui se passe à Galveston, qui est une station balnéaire du Texas, une station très populaire où la plupart des habitants travaillent sur les plateformes pétrolières offshore. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pareil, on a l'odeur assez rance, l'odeur de la poussière, en fait, de l'été, l'odeur des huiles le goût presque, en fait, de l'huile de bronzage, le goût de l'air salé qui attaque, qui brûle tout, les visages sont burinés, et il y a vraiment une ambiance moite. Et très désagréable, mais qui est transformé en fait dans une espèce d'esthétique de cet été crasseux.
Est-ce qu'il y a un orage salvateur à la fin ?
Non, il n'y a pas d'orage salvateur.
Vraiment, moi, chacun repasse avec bon, je ne sais pas si on lit la même chose que ce qu'on conseille, Perrine Albin, mais vous allez mettre quoi dans votre sac d'été de lecture ?
Dans mon sac de lecture, je vais emporter les prochains livres de la rentrée. Je vais prendre Cannibal de Régis Jauffray, que j'ai très envie de lire. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? Mais du coup, j'annonce un peu ce qui va paraître en septembre.
Mais vous n'êtes sûr de rien, vous annoncez des choses que vous n'avez pas lues.
Exactement.
Donc aussi bien, c'est nul.
Oui, j'annonce des choses que j'ai pas lues, donc on ne sait pas. Il y a le prochain Laurent Godet aussi qui m'intéresse. Il y a un roman de Laurent Mauvignier aussi qui va sortir, donc je vais le lire.
Continuer.
C'est continuer, ouais, c'est ça. Ça va être bien ça aussi. Voilà. Mais après, s'il y a des livres que je peux conseiller pour l'été, notamment il y a un livre que j'ai pas évoqué que j'aimerais évoquer parce qu'il est absolument sublime. C'est La Presqu'île de Julien Gracq, qui est un peu méconnu, mais qui est vraiment un de mes livres préférés et qui se passe aussi pendant une journée d'été. Et bon, c'est un livre sur l'attente, hein. Il ne se passe pas énormément de choses, mais c'est quand même très intéressant puisque ça se passe dans une petite gare de campagne. Un homme attend la femme qu'il aime et elle ne vient pas. Et donc il va errer dans la campagne environnante, il va revenir sur les lieux de son enfance. Et donc c'est voilà, un livre sur l'attente avec tout ce qu'elle contient d'espoir et de déception annoncée aussi. D'ailleurs, c'est un livre qui recèle en lui seul tous les thèmes de l'été avec le désir. À un moment donné, il y a une scène qui est très belle où il a loué une chambre d'hôtel pour lui et sa compagne, et il imagine en fait ce que va être sa rencontre avec cette femme dans cette chambre, et donc c'est extrêmement érotique, voilà, très beau, et c'est un beau livre pour l'été aussi.
Vincent Almendros.
Alors moi je vais prendre encore un gros livre dans ma valise, c'est Le Quatuor d'Alexandrie. Et sinon, en conseil de lecture, j'aurais très très envie de conseiller Un beau début d'Éric Laurent, que j'ai trouvé remarquable.
Et qui est sorti tout récemment.
Qui est sorti, je crois, au mois de mars.
Et il y a un de vos livres qui va sortir après l'été?
À moi? Non, il faut d'abord que je termine.
D'accord, fausse info. Christophe?
Eh bien, moi, je ne sais pas encore ce que je vais lire cet été. Ce que je vais faire, c'est au premier jour de mes vacances, je vais aller à la librairie. Et je vais demander conseil.
Vous allez lire des manuscrits pour la Maison Martinelli?
Ben non, justement. Enfin, si, on va être un peu obligé. Mais en lecture de plaisir, justement, je vais essayer de me laisser guider vers quelque chose que je ne connais pas.
Donc on fait signe à nos habiles libraires qui vont vous trouver chez eux à un moment ou un autre.
Voilà, c'est ça.
Et Clémence, pour terminer?
Ben moi, je vais encore me diriger vers le récit d'aventure. Et du coup, j'ai très envie de lire Le Grand Marin de Catherine Poulain, que je me réserve du coup pour cet été.
France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
14h54 sur France Culture, le samedi 4 juin dernier, dans le cadre du week-end Imagine, que France Culture produisait avec le Centre Pompidou sur la Piazza. Nous avons fabriqué une marelle radio géante avec les auditeurs, les passants, les visiteurs, les enfants, les ados, les adultes qui passaient et qui enregistraient pour nous et avec nous le récit de moments qui les avaient marqués. On en écoutera 5. Jusqu'à vendredi, et aujourd'hui, Karim.
Il y a un personnage que j'aimais beaucoup, qui s'appelle André Braïc, qui est décédé, et c'est un astrophysicien, avec beaucoup d'enthousiasme. Et voilà, sa mort m'a refait penser à cette expérience que j'ai eue quand j'étais petit, et qui aujourd'hui m'influence encore. Mon père, qui habitait à Djerba, sur l'île de Djerba, en Tunisie, montrait souvent les étoiles qui se reflétaient dans la mer. Et il montrait les étoiles en me disant « Regarde, il y a une infinité par-dessus la mer, et ça peut donner beaucoup d'inspiration. » Alors il y avait beaucoup de barques de pêche, beaucoup de gens qui mangeaient du poisson. À l'époque, il n'y avait pas tous les hôtels, c'était dans les années, début des années 80. Il y avait un peu moins d'hôtels, il y en avait, mais un petit peu moins. Et mon père, lui, c'est un artiste, et il me parlait de ça en termes poétiques. Donc c'est surtout cette sensation, et alliée à cette vision qui m'est restée et qui m'influence aujourd'hui, oui. J'avais 6 ans et j'essayais de ne pas faire comme l'idiot qui regarde le doigt. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Aujourd'hui, je fais de la musique et je pense souvent à lui et à ce qu'il me disait quand il montrait les étoiles et à l'immensité que ça crée dans notre esprit, l'immensité des possibilités.
Retrouver sur la route cet été l'hôtel où vous étiez arrêté, la même chambre et ce soleil que les volets filtraient. Retrouver ici le goût des baisers que la mer a mouillée d'eau salée et sa peau douce. Que que le soleil teinté d'ambre cuivré. Ça fait 1 million. L'été dernier, ça fait 1 million d'années. On dirait que ça vient d'arriver.
Vincent Almendros, c'est vous qui avez voulu entendre cette chanson, pourquoi ?
Pour moi, elle est très liée à l'été, déjà parce qu'il évoque l'été dans sa chanson, mais aussi parce que j'ai découvert cette chanson et Bastien Lallemand aussi l'été dernier, vraiment par hasard, dans un petit village où il faisait des petits concerts et il s'entoure généralement de plein de personnes remarquables, J.P. Nataf, Camilla Jordana. Et voilà, c'est une bande que je découvre et avec qui je traîne parfois un peu et qui est, je trouve, formidable. Et vraiment, l'album de Bastien Lallemand qui s'appelle La Maison Haute. Et aussi un conseil d'écoute d'été.
Et presque littéraire d'ailleurs, hein, parce que c'est quasiment un recueil de nouvelles. Merci à tous les quatre de nous avoir donné envie de lire, d'écrire, de relire, de réécrire cet été. Perrine Albin, Le Genre Urbain, c'est une librairie à Paris. On vous envoie plein d'auditeurs, comme ça ils vont venir acheter leur livre d'été chez vous. Vincent Almendros, Un été, c'est le livre dont on a lu quelques extraits aux éditions de Minuit. On peut aussi signaler Je casse le studio, Ma chère Lise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Christophe et Clémence Martiali, on avait sous le nez cet opus Une femme chez les chasseurs de têtes. Comment on dit, Titaïna ?
Titaïna, tout à
fait. Titaïna. Et on a aussi parlé de Tokyo Vice, mais on mettra le lien vers le site internet. Et longue vie à votre maison d'édition.
Merci. Merci.
Bel été à vous quatre. Chers auditeurs, nous sommes ravis de lire chaque jour les messages que vous postez via la page de l'émission franceculture.fr. C'est vrai, c'est Romain qui répond en ce moment. On est vraiment très contents sur Twitter et Facebook. Merci beaucoup. Franceculture.fr, vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Comme ça, vous faites un very best-of de la série. Pendant tout l'été, l'émission est imaginée avec Romain Debec-Delièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Réal. Réalisé par Somanina, aux manettes aujourd'hui Alexandre Dang et aux droits d'auteur Jean-François Souvilly, la littérature encore avec Mathieu Garrigou-Lagrange dans un instant.